J'ai eu la chance de, je crois, d'être le premier passager sur la ligne Casa-Dakar. C'était en 1929 et à l'époque, la ligne partait de Toulouse. Alors, il y avait deux tronçons dans la ligne. Le premier était Paris-Casablanca, qui avait déjà été exploité depuis 2 ou 3 ans et qui acceptait des passagers, et un autre tronçon qui avait été ouvert peu de temps auparavant, qui était Casablanca-Dakar, et qui ne transportait que du courrier. Nous sommes partis de Casa un matin. Les étapes étaient Casablanca-Agadir, Agadir-Cap-Juby, enclave espagnole, dans le Rio de Oro, Cap-Juby-Villa Cisneros, qui était toujours dans le Rio de Oro, puis... alors Villa Cisneros en Mauritanie et de Mauritanie à Dakar. Dans l'avion qui était alors un des avions tout nouveaux de commerciaux et qui était l'AT25 et qui remplaçait les Briguet 14 qui eux étaient des appareils de la guerre de 14-18 parce que le Briguet 14 était beaucoup moins sûr que le l'AT-25, c'était de vieux appareils qui avaient été rafistolés, qui avaient été maintenus par des équipes de mécanos de génie, dévoués à leurs pilotes, dévoués à leurs zingues, qui bricolaient merveilleusement, mais ils n'étaient tout de même pas assez sûrs pour faire le vol tout seul, c'est-à-dire qu'un deuxième Briguet 14 les accompagnait toujours, au cas où il y aurait une panne, et alors l'avion accompagnateur se posait, prenez l'équipage et le courrier et continuez le vol. Alors, il y avait le pilote, Émile Lécrivain, un ingénieur de l'aéropostale qui s'appelait Ahmet, un interprète, parce qu'on envisageait toujours la possibilité d'un atterrissage forcé dans les pays insoumis, et le chef des transmissions, parce qu'on commençait à installer, on commençait seulement à installer la radio à bord, Édouard Serre. Notre première étape jusqu'à Agadir avait été parfaite, et puis nous sommes partis pour Cap-Juby. Jusqu'à Cap-Juby, les choses ont marché pas trop mal. Nous sommes posés là et quand nous sommes descendus, le pilote et l'interprète, nous avons vu qu'ils faisaient un drôle de visage. L'air était trop chaud, il y avait des particules de sable dans l'air, mais l'écrivain a pressé, bien qu'il ait pas beaucoup parlé avec les mécanos qui étaient là et avec lesquels il était le seul lien entre le monde extérieur. Il leur apportait toujours des bonbons, des cigarettes, de Cap-Juby, je pense qu'il faut le dire, parce que c'était une station espagnole où il n'y avait que des militaires, entourés de murailles parce qu'on avait peur d'attaques de nomades sans arrêt. C'était d'une tristesse mortelle et les mécanos qui étaient là avaient une vie terrible. Mais le passage une fois par semaine de l'avion postal était pour eux la récompense. Et l'écrivain faisait tout ce qu'il pouvait pour marquer le coup, rigoler avec eux, leur raconter des histoires. Mais là, il a pressé le mouvement, vite, vite. Alors j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il m'a dit, j'ai peur d'avoir raison, mais c'est le vent de sable. Et il faut, on a le courrier, il faut quand même tenter le coup, il faut partir le plus vite possible. Et au moment où nous sommes remontés dans l'avion, je me rappelle, il y avait... comme une pluie de... Je ne savais pas ce que c'était. C'était des libellules du désert qui étaient en train de crever à cause du vent de sable. Puis nous sommes partis. Et au bout d'une demi-heure, 40 minutes de vol, on ne voyait déjà presque plus rien. Comme il n'y avait pas de radio, ni aucun moyen de guidage tel qu'on les a aujourd'hui, où on peut voler à l'aveugle, tout dépendait de l'adresse et du flair du pilote. Alors d'un côté il y avait les falaises de la côte et de l'autre côté il y avait l'océan Atlantique. Et peu à peu la marge de visibilité s'est réduite tout à coup, je me suis aperçu que on ne voyait même pas le bout des ailes. Ça a duré 2 heures. 2 heures où j'ai eu assez souvent peur dans ma vie, mais là, c'était une angoisse affreuse. Tantôt, on était à 1 mètre au-dessus de la mer qu'on voyait seulement à ce moment-là et on risquait de se fracasser. Alors, il donnait un coup de volant sur la gauche et on voyait surgir les falaises qui dominaient l'avion contre lesquelles on pouvait aussi s'écraser. Et dans ce zigzag, lui-même, il avait le visage, il n'y avait pas de protection au poste de pilotage, c'était en plein air. Il avait le visage jaune de sable. Quand je me retournais vers mes compagnons, c'était la même chose. Et je voyais dans les yeux de Serre, qui lui avait survolé ces endroits, et c'est là où il avait été fait prisonnier, l'angoisse d'un homme qui se dit, ça va recommencer, on va se tuer ou je vais être pris de nouveau. Bref, on racontait ça. C'est très difficile, mais les passages de l'espoir, de l'angoisse, et puis tout à coup, je dis les choses comme elles sont, il y a un moment où on se dit, on devient fataliste. Est-ce la proximité des morts, des musulmans? Et je me suis dit, eh bien, et puis le visage de l'écrivain, du pilote, qui luttait, qui lui, je le sentais, avait la volonté absolue d'arriver. Il y a une espèce de suspension de sentiments et tout à coup on sort dans cette purée jaune. Je ne sais pas ce qu'il a vu, il m'a dit on y est. Et puis peu à peu, à travers ce brouillard infernal, quelque chose s'est éclairci, un semblant de piste, et on s'est posé et c'était Villa Cisneros. Eh bien, quand je suis descendu, j'ai eu beaucoup d'aventures dans la vie, comme pas mal de gens, mais c'est l'instant, je crois, de bonheur physique, viscéral, le plus grand, de se sentir les pieds sur la terre et sauver.